Bonjour à chacun. Je vous invite à lire le texte de ce matin dans le livre de Ruth. Il s'agit de la page 261. Et je vais lire l'ensemble du chapitre 1. Livre de Ruth, chapitre 1. Dans les Bibles bleues à la page 261. Au jour où les juges gouvernaient, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour séjourner en immigré au pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, le nom de sa femme Noémie et le nom de ses deux fils Mahlon et Kilion. Ils étaient Éphratites, de Bethléem, de Juda. Ils arrivèrent au pays de Moab et ils y vécurent. Puis Élimélec, le mari de Noémie, mourut. Et elle resta seule avec ses deux fils. Ceux-ci épousèrent des Moabites. Le nom de la première était Orpa, et le nom de la seconde, Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Mahlon et Kilion moururent aussi, tous les deux. Et la femme resta seule, privée de ses deux enfants et de son mari. Alors elle revint au pays de Moab. Elle revint du pays de Moab, plutôt, avec ses belles-filles. En effet, elle avait appris au pays de Moab que le Seigneur était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Elle quitta le lieu où elle vivait, ses deux belles-filles avec elle. Elles se mirent en route pour retourner en Juda. Noémie dit alors à ses deux belles-filles: « Allez, que chacune de vous retourne chez sa mère, que le Seigneur agisse avec fidélité envers vous, comme vous avez agi envers ceux qui sont morts et envers moi. Que le Seigneur vous donne à chacune de trouver un lieu de repos chez un mari. » Puis elle les embrassa, elles se mirent alors à sangloter, à lui dire: « Non, nous retournerons avec toi, vers ton peuple. » Noémie dit: « Retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon ventre des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, car je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, il y a de l'espoir pour moi, si ce soir même j'étais remariée et que je mette des fils au monde, attendriez-vous pour cela qu'ils grandissent? Refuseriez-vous pour cela de vous remarier? Non, mes filles, mon sort est plus amer que le vôtre. La main du Seigneur s'est abattue sur moi. » Elles sanglotèrent encore. Puis Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Noémie dit alors: « Ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne-toi aussi, comme ta belle-sœur. » Ruth dit: « Ne me pousse pas à t'abandonner, à me détourner de toi. Où tu iras, j'irai. Là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et c'est là que je serai enseveli. Que le Seigneur me fasse ceci, et qu'il y ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. » Noémie, la voyant résolue à aller avec elle, n'insista plus. Elles marchèrent toutes les deux jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, l'émotion gagna toute la ville. Les femmes disaient: « Est-ce là Noémie ?» Elle leur dit: « Ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara, amère, car le Puissant m'a rendu la vie bien amère. J'étais partie comblée, le Seigneur me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Noémie ? Le Seigneur a témoigné contre moi, le Puissant m'a fait du mal. » Ainsi Noémie revint, et avec elle sa belle-fille, Ruth, la Moabite, qui venait du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. On ne va pas lire tout le livre de Ruth, et vous aurez peut-être l'occasion de le lire cet après-midi ou à un autre moment.
Ce qui est intéressant, je trouve, quand on ouvre ce livre, c'est qu'on réalise qu'on a affaire à des gens tout à fait ordinaires. On n'a pas affaire à des gens qui sont célèbres, qui sont riches, qui vont faire la couverture de Paris Match avec des titres chocs, Noémie Elimelech et Elimelech. Elimelech, l'horrible famine, le terrible voyage avec une photo floue. Ce n'est pas eux qui vont faire la une des magazines. Non, on entre dans la crise, c'est vrai. La crise sur un plan personnel, mais aussi collectif. Sur un plan personnel, il y aura des deuils successifs. La famine, la difficulté à trouver de quoi manger. Sur le plan collectif, cette famine, elle affecte tout le monde dans le pays. Et dans ces circonstances difficiles, une question qui vient naturellement à l'esprit, c'est est-ce que les souffrances que je vis ont un sens? Est-ce que ce que je vis a un sens? L'article remonte au mois de mai en 2010, mais l'acteur Bernard Giraudot avait accepté de parler de son parcours en tant que malade du cancer. En fait, il est décédé quelque temps après l'entretien, le 17 juillet 2010. Il avait lutté pendant 10 ans avec le cancer. Et dans l'entretien, il parle de ses espoirs, de ses rechutes, avec sincérité. Le reporter lui commence par lui dire « Vous dites que vous vous attendiez, que vous vous y attendiez quand le cancer est tombé sur vous. » Et lui répond « Oui, je le savais, je m'y attendais. C'était juste que les choses se passent comme cela. À un moment donné, je ne pouvais plus continuer. » Je voyais bien que j'allais vers quelque chose qui me rapprochait de l'abîme. Cela tenait à mon existence qui avait de moins en moins de sens, une course effrénée qui me maintenait en permanence dans un état d'angoisse, celle qui peut accompagner notre métier d'acteur. J'allais où ? Un manque de sens, de profondeur, de recherche sur l'essentiel. Et donc, le cancer est arrivé et je n'étais pas trop étonné. Par la suite, il parle de cette maladie comme d'un signe ou d'un message, une occasion de questionnement. Il faut reconnaître qu'on est surpris d'entendre qu'il s'y attendait. C'est d'ailleurs le titre de l'entretien. Et remarquer qu'il donne une signification à son cancer, la nécessité de s'arrêter dans une course effrénée, de trouver du sens, de la profondeur, de rechercher l'essentiel. D'une certaine manière, comme on le voit dans le livre de Job, un autre livre de la Bible qui nous parle de la souffrance, il y a toujours une part de mystère. Et expliquer la souffrance, ça peut être assez délicat, dangereux, même destructeur, comme on l'a vu pour les amis de Job. Et pourtant, cette recherche de sens, on le voit dans ces paroles de Giraudot, c'est ce qui vient naturellement à l'esprit. On essaie de donner du sens à ces souffrances. Un des thèmes centraux qu'on trouve dans ce livre de Ruth, c'est la providence de Dieu. Par providence, on entend la préservation, le soin que Dieu exerce en faveur de tout être, de sorte qu'il puisse vivre ce pour quoi il a été fait. Et une question qui est soulevée ici, c'est est-ce que Dieu prend réellement soin de Noémie ? Est-ce qu'il prend réellement soin d'elle ? Et le livre nous met tout de suite dans le bain de la réalité. Vous avez entendu ce qui se passe pour elle. Et un mot qui me semble assez clé pour comprendre ce chapitre, c'est le mot « amer ». Il revient à plusieurs reprises et on va l'utiliser pour le plan. Une crise amère dans les versets 1 à 5. Une complainte amère dans les versets 6 à 18. Un surnom amer dans les versets 19 à 22. Trois parties correspondent aussi à trois étapes. Il y a une première étape avec le départ d'une famille vers le pays de Moab. Deuxième étape avec le voyage du retour. Et troisième étape avec l'arrivée à Bethléem. Et une question qu'on aura à l'esprit tout en faisant ce parcours, c'est comment vivre ces circonstances auxquelles on a de la peine à donner du sens? Comment les vivre? Commençons avec une crise amère. Le début du récit commence avec le contexte. Au jour où les juges gouvernaient, il y eut une famine dans le pays. quelle est cette période des juges? Le livre qui précède le livre de Ruth, si vous l'avez devant vous, c'est le livre des juges. La période des juges s'étend de la mort de Josué jusqu'au premier roi d'Israël, Saül, soit de la fin du XIIIe siècle vers la fin du jusqu'au XIe siècle avant Jésus-Christ. Et le mot qui caractérise la vie dans cette période des juges, c'est le mot déclin. Déclin sur le plan politique, sociologique, mais aussi sur le plan moral. On y trouve quelques-unes des pages les plus sombres de la Bible. Et à plusieurs reprises, il y a un refrain qui est entendu. « En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui plaisait. » Que ce soit par les guerres intestines, les violences commises, l'idolâtrie répandue, cette période est marquée par le déclin. Ça ne signifie pas qu'il n'y ait aucune lueur. On verra qu'il y a des personnages, justement, ici, qui sont remarquables dans leur attitude. Et dans la suite du livre, on en découvre un autre en particulier. Mais il s'agit plutôt de l'exception que de la règle. À cause d'une famine qui sévit dans le pays, une famille décide de partir pour le pays de Moab, à l'est, sud-ouest, sud-est plutôt, d'Israël. Et ça, c'est la première crise qui éclate. Il manque de nourriture, le mari s'appelle Elimelec, l'épouse s'appelle Noémie, et ils ont deux fils. On peut relever l'une ou l'autre ironie dans le texte. La première ironie, c'est qu'ils quittent Bethléem pour trouver de quoi manger. Alors que Bethléem signifie littéralement « maison du pain ». Ils doivent quitter cette ville, symbole pourtant de « maison du pain » pour trouver de quoi manger. Est-ce que c'est une conséquence du déclin dont on a parlé, qui caractérise la période des juges? C'est possible, mais le narrateur ne le dit pas explicitement. C'est une hypothèse envisageable. La deuxième ironie, c'est que cette famille quitte le pays d'Israël pour se rendre dans un pays qui jusque-là est caractérisé par l'absence de générosité vis-à-vis d'Israël. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de Moab dans la Bible. Et dans les quatre ou cinq éléments essentiels qui les opposent, j'en vois deux significatifs. Alors que le peuple hébreu venait de sortir de l'esclavage en Égypte, qu'ils avaient pourtant des ancêtres communs avec Moab, Moab va refuser d'approvisionner le peuple hébreu. Et même plus, ils vont vouloir s'en débarrasser. Deutéronome 23 mentionne le pain et l'eau qu'ils ont refusé de donner. Un deuxième contentieux concerne la période des juges elles-mêmes. Et là, on découvre en Juges 3 que le roi de Moab, Églon, s'est enrichi sur le dos du peuple d'Israël. Et la description qui est faite d'Églon contraste, un contraste entre l'opulence qu'ils connaissent à Moab et l'écrasement d'Israël. Et ça montre une ironie encore. Pourquoi est-ce qu'ils devraient quitter Israël pour se rendre vers cette nation-là, de toutes les nations? Mais une fois qu'ils y arrivent, c'est la deuxième crise sur un plan personnel. Elimelech meurt. Et là, on peut imaginer la souffrance que Noémie vit alors qu'elle est loin de chez elle. Avec ses deux fils, elle doit enterrer son mari. Les deux fils de Noémie vont se marier, épouser deux femmes moabites, Orpa et Ruth. 10 ans s'écoulent, et là c'est la troisième crise pour Noémie. Ses fils meurent à leur tour. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus triste pour une mère que de devoir enterrer ses deux fils? C'est déjà difficile d'enterrer son mari, mais là elle doit enterrer ses propres fils. La crise est amère. La souffrance est dure à vivre. Et elle se trouve avec ses deux belles-filles sans le soutien d'un mari, sans le soutien de ses fils. Pas de retraite, pas d'allocation de veuvage, pas d'assurance vie. Et les termes qu'on retrouve à deux reprises ici, c'est que Noémie resta seule. Chaque séparation l'isole davantage. Et on ne peut pas s'empêcher de se demander si le départ de Noémie vers Moab, c'était une bonne décision. Est-ce qu'elle a bien fait? C'est certainement une question qu'elle a dû se poser à un moment donné. Est-ce que j'ai fait une grosse erreur en venant ici? Certains commentateurs de ce passage pensent que oui, d'autres pensent que non. Mais le narrateur, lui, ne nous dit pas clairement, explicitement, il laisse planer l'ambiguïté. Pas de commentaire clair à ce sujet. La réalité, c'est qu'il est difficile de donner du sens à ce qui se passe. J'ai mentionné tout à l'heure l'entretien avec Giraudeau. Et à un moment donné, le journaliste réalise le danger dans le fait d'affirmer que son cancer était logique. Et il dit la chose suivante, « N'y a-t-il pas un risque de se dire alors que le cancer est un peu la faute du patient ?» Et la réponse de Giraudeau, « Non, il faut voir que la vie menée durant toutes ces années n'a pas été le bon chemin. Ce n'est pas de sa faute, mais on peut commencer à comprendre que l'on est en partie responsable de façon inconsciente de ce qui s'est passé. Ce que l'on vit autour de nous est souvent effrayant, on accumule les bêtises, on peut avoir le sentiment que l'on est dans un train fou, et si on ne fait rien, le premier arrêt c'est l'hôpital, et le second c'est le cimetière. » On trouve dans cette partie de l'entretien la difficulté à donner du sens à ce qui se passe. Est-ce que je suis responsable, consciemment ou inconsciemment? Et de l'extérieur, on réalise que ce serait terrible pour quelqu'un d'aller vers quelqu'un d'autre et de dire « Moi, je pense que ton cancer, c'est quelque chose que tu as mérité, le résultat de mauvais choix. » Ce serait complètement inconscient. Mais dans la peau de la personne, il faut reconnaître que c'est ce genre de questionnement qui passe par l'esprit. Et on le retrouve ici chez Noémie. Un point commun à toutes les épreuves, c'est qu'elles nous font nous arrêter et nous font réfléchir. Et c'est le cas ici aussi. On peut y réfléchir quand les circonstances nous y poussent. Et peut-être si vous n'êtes pas dans ces circonstances-là, c'est l'occasion d'y réfléchir par anticipation. Pour ceux d'entre nous qui se posent encore la question de l'existence de Dieu, de sa réalité, de sa présence, ce livre de Ruth a quelque chose d'intéressant à dévoiler. Il permet justement de réfléchir à la providence de Dieu. Et pour ceux d'entre nous qui souffrent, pour une raison ou pour une autre, c'est l'occasion aussi de réaliser sa providence dans la vie de Noémie, de Ruth. Pour Noémie, la crise est amère, dure à avaler, et on a de la peine à donner du sens à ce qui se passe. On passe à la complainte amère. Même si, comme on le verra, la crise demeure profonde, il y a un tournant dans le récit. Noémie entend dire que le Seigneur est intervenu en faveur de son peuple Israël. Elle décide de retourner dans son pays d'origine. Et c'est la première fois où Dieu est cité dans le récit. On réalise qu'il est cité de manière indirecte. Elle entend dire que Dieu est à l'œuvre. Et c'est une particularité du livre. Ce qui est intéressant à voir, c'est que Dieu figure régulièrement dans le récit, mais c'est chaque fois dans la conversation. On parle de lui, on le prie, mais le narrateur ne le mentionne comme acteur qu'à la fin. Chapitre 4, verset 13. On parle de lui, on souhaite ses interventions, mais il agit comme dans les coulisses. Quand on voit la manière dont les choses vont se dérouler, on réalise qu'il est bel et bien acteur, que sa providence est à l'œuvre. Il est même l'acteur principal, mais sur un plan horizontal, on parle simplement de lui. Il figure dans les conversations. La providence, elle se voit ici d'une part dans le fait que la famine a cessé, mais d'autre part dans le fait que Noémie en entend parler. Et ses belles filles commencent par l'accompagner. Sauf qu'à un moment donné, Noémie se retourne pour les inviter à faire demi-tour. Verset 8. « Allez, que chacune de vous retourne chez sa mère. » Alors qu'est-ce qui la motive pour dire ça? Une manière de le lire, ce serait une anticipation du langage de la rue au XXIe siècle. « Retourne chez ta mère. » Mais ce n'est pas ça. Vous l'aurez compris. Mais c'est plutôt le désir, comme elle le dit, que Dieu agisse avec fidélité envers elle. On reconnaît qu'il y a besoin d'un soutien dans leur situation en tant que veuve, et elle veut qu'elle puisse vivre de cette protection. Et c'est en fait l'amour qui transparaît dans cette invitation, cette question. Un amour qui peut sembler ferme, et pourtant qui a pour but de leur éviter des souffrances supplémentaires. Il y a quelque chose de touchant qu'elle souhaite pour elle. Elle dit d'une part sa reconnaissance pour leur fidélité vis-à-vis d'elle, et ensuite elle leur souhaite ce qu'il y a de meilleur. Ça se voit dans les termes qu'elle utilise. Elle choisit pour parler de Dieu, de son nom d'alliance, Yahvé, que Dieu, le Dieu de l'alliance, agisse avec fidélité, le nom avec lequel Dieu s'est révélé, un nom qui dit que Dieu est fidèle à ses promesses. Et quant à la fidélité dont elle parle, chesed, le terme il est large, il inclut la fidélité, l'amour, la miséricorde, la grâce, la bonté, la loyauté. Et si elle leur demande de rentrer, c'est vrai, c'est avec le vœu qu'elles soient richement comblées, pour éviter qu'elles aient une peine trop lourde à porter. Être veuve dans une nation étrangère, déjà, être veuve, ce n'était pas simple, mais dans une nation étrangère, c'est encore plus difficile. C'était les gens en bas de l'échelle sociale. Et elle devra envisager de rester seule, mais elle ne veut pas placer ce poids sur leurs épaules. Et elle se montre forte dans ses arguments. Elle leur dit, par exemple, « Imaginez que j'ai d'autres fils. Est-ce que vous allez attendre qu'ils soient suffisamment grands pour les épouser ? Ça n'a pas de sens. Même un scénario tiré par les cheveux, ça n'a pas de sens. » Et dans le prolongement, elle reconnaît la difficulté. On retrouve ce mot amer. « Mon sort est plus amer que le vôtre. La main du Seigneur s'est abattue sur moi. » Une complainte amère. Si les belles filles retournent à Moab, elles ont l'espoir de se remarier, mais pour Noémie, son sort n'est pas enviable. Que penser de cette expression « la main du Seigneur s'est abattue sur moi » ? D'une part, ça peut donner du crédit à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les questionnements. On se demande si Dieu en a après nous. Est-ce qu'il m'en veut pour quelque chose que j'ai fait ? Le départ vers Moab, le mariage de mes fils avec des Moabites. Est-ce que je suis la cible de Dieu ? Mais toujours rien de la part du narrateur sur une explication de ses souffrances. Toujours une part de mystère. Et paradoxalement, une autre chose que cette complainte dévoile, c'est que ces circonstances difficiles, et qu'elles soient difficiles ou non, c'est toujours avec une foi en Dieu qu'elle parle. Remarquez qu'on ne l'entend pas dire « ça y est, c'est terminé, je sais que Dieu n'existe pas, avec tout ce que j'ai subi, avec tout ce que j'ai vécu, il n'existe plus, c'est clair. » Non, c'est bien en parlant de Dieu, et même en souhaitant pour ces belles filles tout ce qu'il y a de meilleur, qu'elles parlent de Dieu, et qu'elles croient que Dieu, dans sa fidélité, peut démontrer sa grâce, son amour, sa fidélité envers elles. La vérité qu'elle dévoile dans ses paroles, tout en étant amère, c'est que Dieu est souverain, non seulement dans les temps favorables, mais aussi dans les temps difficiles, même si on a de la peine à comprendre ce qu'il fait. Les deux belles-filles sont profondément touchées, à la fois par ce qui se passe et aussi par ce que Noémie leur a dit. Elles se mettent à sangloter. Orpa fait demi-tour. Elle embrasse Noémie, repart vers Moab. Et le narrateur ne fait pas de commentaire négatif ou positif sur ce qu'elle fait. Elle a été invitée à retourner dans son pays, elle le fait. Et Noémie se tourne alors vers Ruth pour l'inviter à faire de même. Et c'est là qu'on entend du côté de Ruth la détermination à rester avec Noémie. Vous l'avez entendu dans les paroles. C'est peut-être dans un premier temps avec les arguments que Noémie a avancés, on aurait dit que Ruth allait rester bouche bée, c'est vrai, il n'y a aucun espoir pour nous là-bas. Mais c'est plutôt Noémie qui va rester bouche bée. Ne me pousse pas à t'abandonner, à me détourner de toi. Où tu iras, j'irai. Là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et c'est là que je serai enseveli. Que le Seigneur me fasse ceci et qu'il y ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Là, c'est un vrai post-it, une vraie ronce. Elle n'a pas l'intention de lâcher d'une semelle, toujours dans le rétroviseur. Et alors que Noémie a vécu séparation sur séparation, elle a quelqu'un qui veut à tout prix rester attaché à elle. Les paroles de Ruth, elles sont au cœur de l'engagement de s'associer à son peuple, mais aussi à son Dieu. Et on réalise qu'elle n'a pas encore vécu en Israël. Et pourtant, elle dit déjà son désir de s'attacher à son Dieu. Peut-être qu'on peut voir la beauté de ce qu'elle dit par contraste. Je me souviens avoir entendu le témoignage d'un homme qui avait vécu avec une certaine éducation chrétienne, sans pourtant que ses parents le soient. Il avait reçu une éducation. Et dans ce témoignage, il rappelait le fait qu'à un moment dans sa vie, il avait prié pour une femme dans son église. Il avait 14 ans. Une femme dans l'église qui attendait des jumeaux et la grossesse se passait mal. Et alors qu'il souhaitait le bien de cette femme, il a prié en disant à Dieu dans sa prière, « Si tu existes, permets que la naissance des jumeaux se passe bien. » Les jumeaux sont morts à la naissance et pour lui c'était la confirmation que Dieu n'existe pas. Pendant des années, il a continué avec la conviction que Dieu n'existe pas. Et il a fallu, des années plus tard, seul dans une chambre à l'étranger, alors qu'il étudiait là-bas, qu'il découvre là la grâce, le pardon. Mais dans son parcours, on voit un contraste avec Ruth. Si elle avait décidé de marcher sur la base de circonstances favorables, si vous avez en face de vous Noémie qui a connu la famine, le décès de son mari et le décès de ses deux fils, vous partez en courant si on vous dit épouser la foi de cette femme-là. Et pourtant Ruth, malgré tout ce qui s'est passé, veut connaître ce Dieu-là, veut être au bénéfice de la providence de Dieu en s'attachant à Noémie. On arrive maintenant à Bethléem, un surnom amer. Une boucle qui a été faite sur plusieurs années. C'est de là qu'elle est partie, plutôt. La rumeur se répand et les femmes viennent à leur rencontre. Et une question qui vient sur les lèvres, c'est « Est-ce là Noémie ?» Alors, il y a peut-être la surprise d'une part, mais on peut se demander aussi si son visage ne l'a pas trahi aussi. Et elle montre sur son visage les signes, les souffrances qu'elle a vécues. On a la peine à la reconnaître, c'est possible. Noémie le répond, « Ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi amère, car le puissant m'a rendu la vie bien amère. J'étais parti comblé, le Seigneur me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Noémie? Le Seigneur a témoigné contre moi, le puissant m'a fait du mal. » On retrouve bel et bien, à la fois dans le surnom qu'elle choisit, mais aussi dans ce qu'elle affirme, l'amertume, point de se faire appeler comme ça. Elle mentionne la différence entre l'aller et le retour. Elle est partie avec un mari et deux fils, elle revient en ayant perdu les trois. Mais est-ce que sa perception est bien fondée? Que dire de l'attachement remarquable de Ruth? Est-ce qu'elle revient véritablement les mains vides? Que dire du moment où elle revient à la fin du texte? Alors qu'elle était partie durant la famine, le verset 22 affirme qu'il est désormais le temps de la moisson des orges. Est-ce que sa perception est bien fondée sur ce qui se passe? Toujours est-il qu'elle a la peine à vivre. Et il faut reconnaître que quand on vit une épreuve comme elle a dû la vivre, il est difficile d'y voir clair. Et c'est seulement avec le recul qu'on peut voir une différence entre la réalité et son vécu, sa perception. Le début du livre nous a parlé du départ vers Moab. Et alors que ce retour de Moab est entrepris, ce qu'il y a de plus en plus présent sur les lèvres et dans les conversations, c'est que Dieu est à l'œuvre. Et un terme qui revient dans ce chapitre, c'est le verbe « tourner », « revenir », « retourner », comme s'il y avait besoin d'un retour vers Dieu. Et on peut se demander si c'est le même cas pour nous, s'il y a de notre côté aussi ce besoin de revenir vers Dieu. Même si notre vision des circonstances est affectée, est-ce qu'il y a besoin de retour ? Lorsque j'étais à Londres en 2009, il y a un article qui est paru dans le journal. Et l'auteur était Andrew Norman Wilson, un auteur connu en Grande-Bretagne. Et le titre, c'était « Pourquoi je crois à nouveau ?» Il est journaliste et il décrit son parcours spirituel. Il mentionne le fait qu'il avait connu la foi durant sa jeunesse. Son père n'était pas croyant, mais il avait grandi quand même dans la foi. Et dans l'article, il mentionne les circonstances qui ont fait de lui un véritable athée. Il parle d'une conversion à l'athéisme à un moment donné, une conversion soudaine, selon ses propres termes. Sa foi s'est effondrée comme un château de cartes à un moment donné où il avait le sentiment que la présence de Dieu n'était plus là. C'était l'occasion d'une conférence, d'échanges, de conversations à cette occasion. Et par la suite, il affirme dans le prolongement qu'il a rencontré des athées célèbres comme Richard Dawkins, Christopher Hitchens, et avec eux, il a eu ces conversations, cette assurance que Dieu n'existait pas. Mais des années se sont écoulées, et petit à petit, il y a des doutes qui ont commencé à faire surface. À travers ses lectures, il réalisait que les auteurs qu'il chérissait le plus étaient croyants. Sa mère est décédée sur une période assez courte. Et une explication matérialiste de l'existence ne semblait pas tenir compte de l'aspect mystérieux de l'existence humaine. La beauté, la complexité du langage humain en particulier, tout cela l'interpellait. Et il y a eu les conversations avec des athées matérialistes qui sonnaient faux, qui ne donnaient pas sens à ce qu'ils vivaient. La question du mal, la question de la morale ne semblait pas cohérente d'un point de vue matérialiste. Et à sa propre surprise, il commençait petit à petit à être convaincu du christianisme. À la fin de son article, il dit la chose suivante. « Mon départ de la foi était comme une conversion sur la route de Damas. Mon retour était lent, hésitant, plein de doutes. Il en sera toujours de même. Mais je sais que je ne ferai plus la même erreur à nouveau. » Est-il possible que nous ayons connu ces doutes à cause des circonstances, et pourtant, dans ces mêmes doutes, il est possible de petit à petit revenir à une vision juste de Dieu, de ses interventions. On a posé la question au départ, comment vivre des circonstances auxquelles on a de la peine à donner du sens, alors qu'on a à l'esprit l'amertume de Noémie. C'est utile d'avoir à l'esprit ce qui va se passer à la fin. Au chapitre 4, et on voit des parallèles assez intéressants. Comme c'est le cas ici, on retrouve le commentaire de femmes au chapitre 4. Elles vont reconnaître là que Dieu est intervenu en faveur de Noémie. Elle tient désormais dans ses mains un descendant, le fils de Ruth et Boaz. Elle n'a plus les mains vides, comme elle le disait au chapitre 1. Cette fois-ci, elle affirme que le Dieu de l'Alliance, Yahvé, est intervenu en faveur de Noémie. Ces femmes le disent. Le Seigneur ne l'a pas laissé sans rédempteur. Et de ce rédempteur, elles disent, il te fait revenir à la vie, il pourvoira tous tes besoins dans ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a mis au monde, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Et les dernières paroles du livre vont dévoiler l'identité de ce descendant. Il s'agit d'Obed, père d'Isaïe, grand-père de David. Il est de la lignée dont sera issu le roi David. Et plus encore que le roi David, c'est le Messie attendu qui sera de cette lignée. Quand on lit Matthieu ou Luc, on réalise qu'Obed est dans cette généalogie. Et de manière encore bien plus grande, bien plus belle, n'y a-t-il pas en Jésus la démonstration de la providence de Dieu ? D'une manière, dans sa manière de vivre la souffrance. À différents moments, en ayant sa propre mort en vue, il peut à la fois dire à Dieu librement, « Père, retire cette coupe de moi. » Ou encore, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et dans le même temps, se soumettre à sa volonté, croire en sa souveraineté. Mais d'autre part, ce que Jésus dévoile au sujet de la providence de Dieu, c'est que cette souffrance mystérieuse et injuste qu'il va vivre a pour effet de garantir notre protection, pourvoir à nos besoins, à la fois un plein pardon et une sécurité éternelle. Oui, Dieu est à l'œuvre dans sa providence. Et le sommet de cette providence se voit dans la personne de Jésus. En lui, nous avons l'assurance d'un plein pardon, l'assurance d'une victoire contre le péché et la mort. En lui, nous avons l'assurance d'une vie éternelle. Je vous invite à prier. Notre Père, nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous accordes de voir dans la vie de Noémie et de Ruth ta providence et ta providence en Jésus. Nous te prions, Père, que tu nous accordes cette foi, cette honnêteté, cette sincérité aussi dans notre épreuve pour venir devant toi, mais aussi cette foi, même si elle est chancelante, même si elle est fragile, accorde-nous de voir ta providence, de croire en ta souveraineté. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen.